C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Actualité.
Le 17 mai, c'est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, une initiative phare visant à sensibiliser le public aux discriminations vécues par les personnes de LGBTQIA+. Cette journée revêt un caractère particulier en ces temps difficiles, avec la remontée de la haine envers les communautés de la diversité sexuelle et de genre, notamment en ligne. Et pour parler de tout ça, on reçoit Laurent Brault, directeur général de la Fondation Émergence. Allô, Laurent.
Bonjour.
Je pense que tu es un invité chouchou ici. Je ne sais plus combien de temps. Au moins 3-4 fois que tu viens. Hein?
Certainement.
Au moins une fois
avec
par année.
Grand plaisir.
On est toujours content de te recevoir. C'est quoi la thématique cette année de la journée?
Alors, cette année, on met de l'avant les réalités des personnes aînées. Donc, l'effet allié est en marche. Les gens peuvent déjà aller voir le site web effetallié.ca. Donc, en 2024, on annonçait à la Fondation, dans le cadre du 17 mai, la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie, les reculs. On voyait des reculs un peu partout dans le monde. On sentait qu'il y avait une tendance lourde même au Canada. L'année dernière, on s'est dit, ben, il faut appeler les alliés en disant c'est important que vous soyez là, manifestez-vous. Et cette année, on va encore plus loin avec les alliés en disant maintenant, on est prêt à passer à des actions concrètes de soutien pour freiner les reculs et la haine qu'on voit un peu partout.
Pourquoi les alliés?
Parce que les communautés LGBTQ+, grosso modo, quand on regarde les sondages Léger Marketing qu'on commande à la Fondation annuellement, c'est à peu près 12 à 13 % de la population qui est des communautés LGBTQ+. Donc, on ne forme pas une majorité.
Non.
On forme une majorité quand les alliés sont avec nous. D'ailleurs, dans notre sondage de cette année avec Léger Marketing, c'est 61 % des personnes qui se disent alliés des communautés LGBT, ce qui est très encourageant. C'est 1500 répondants quand même, pan-canadiens. Ouais. Donc, ensemble avec les communautés LGBT, ben, en fait, on forme une majorité. Puis, c'est comme ça qu'on peut s'assurer que les politiques publiques ne soient pas contre nous. Là. Non.
Parce que parfois, on a l'impression qu'il n'y a personne qui nous appuie.
Oui, c'est ça. En fait, un des grands enjeux qu'on a, c'est que les alliés sont présents, c'est juste qu'ils ne savent pas trop comment nous soutenir, sont plutôt silencieux, tout ça. Puis finalement, c'est quand même une minorité de gens qu'on regarde, qu'on creuse les données de notre sondage, à peu près 10 % qui ne se disent pas du tout alliés puis qui ne veulent rien savoir.
Qui ne nous aiment pas puis qui voudraient qu'on disparaisse.
C'est à peu près ça. Donc,
c'est moi, j'ai la façon de raccourcir les choses.
Ouais. Puis ce 10 %-là, en fait, il est très vocal.
Ben oui.
Puis il utilise les réseaux sociaux pour faire passer ses idéologies, ses perceptions.
On va revenir aux réseaux sociaux parce que c'est important, mais j'aimerais quand même qu'on dise, c'est quoi un bon allié de nos communautés?
Un bon allié, bon, il n'y a pas de... Nous, ce qui est important, c'est que les alliés ne se mettent pas une grosse pression, puis on ne veut pas en faire une compétition, hein, qui est le meilleur des alliés. Il n'y a pas de geste anodin. L'idée de lire un livre LGBT, regarder un film LGBT, s'intéresser aux réalités des personnes LGBT, ouvrir la discussion avec une personne des communautés LGBT, poser des questions, tout ça, c'est tout des petits gestes qui, au final, dans leur cumul, quand ces gestes-là s'additionnent, ça crée un véritable effet. Donc, c'est ça qu'on veut dire par l'effet allié. Donc, on invite surtout les gens à aller... puis d'ailleurs, sur notre site effetallié.ca, on a toutes sortes... On a ce qu'on appelle le défi allié.
Oui.
Donc, les gens peuvent aller consulter une liste de choses qu'elles peuvent faire là, pour développer leur côté allié. Il y a même un défi pour les entreprises parce qu'il n'y a pas seulement les personnes qui sont alliées.
Alors, l'entreprise pourrait faire quoi, par exemple?
Premièrement, une communication pour le 17 mai.
Oui, oui.
Bon, là, ça tombe un dimanche, mais ça peut être fait avant ou après. Puis nous, on suggère toujours que ça soit une communication qui vienne de la haute direction. Pour nous, c'est très important parce que dans les entreprises, ce qu'on remarque, ce qui fonctionne vraiment là, pour s'assurer une inclusion, c'est quand la tête elle-même est sensibilisée puis envoie puis prêche par l'exemple, en fait. Là. Quand ça vient toujours d'un regroupement LGBT ou du secteur de l'EDI, on dirait que le message peut passer, mais peut-être pas avec autant de force que quand c'est vraiment la tête dirigeante.
Moi, je peux penser à une tête d'entreprise qui s'appelle François Lambert, qui pourrait peut-être prendre position. Ben, ça, on verra. Hein?
Nous, on offre des formations dans tous les milieux.
Mais je pense à des défis plus personnels. Les blagues homophobes, les blagues transphobes, quand on est allié, on ne devrait pas, on devrait s'interposer, j'imagine.
Oui, c'est sûr que nous, on, dans nos formations, on donne un côté pratique, justement, pour pouvoir développer cette capacité-là d'intervenir. Mais c'est sûr qu'on ne veut pas non plus forcer les gens parce que c'est quand même, comment je pourrais dire, on ne veut pas que les
gens... Ça crée de l'inconfort,
oui. Oui, c'est ça, ça crée de l'inconfort. Donc, mais oui, idéalement, il faut comprendre que quand on est une personne des communautés LGBT puis qu'on reçoit des blagues, des insinuations, une fois, à un moment donné, bon, on endure, mais c'est vraiment le cumul là, qui fait que... tu sais, c'est comme si on se fait piquer par un maringouin. Une fois, c'est correct, là, mais quand ça fait 100 fois, ben ça crée
on
un bleu.
On commence à en avoir assez. Là.
C'est ça.
Oui, oui, oui.
Fait que c'est ça qu'on veut que les alliés
comprennent.
On sort comprennent.
Le muscoire à ce
moment-là. Ouais. Fait que, mais il y a une bonne manière d'intervenir, oui. Puis juste de désamorcer aussi la personne.
Alors, la journée existe quand même hein, depuis plus de 20 ans. Est-ce qu'elle est encore aussi nécessaire aujourd'hui qu'avant?
Ah, plus que jamais, je pense.
Ouais. Pourquoi?
Ouais, plus que jamais.
Parce qu'on va y aller, les réseaux sociaux. On va y aller, là.
Ouais. Ouais. Ben, il y a des... Tu sais, je fais un détour sur le plan législatif. Tu sais, on voit quand même que... bon, il y a des belles réussites, là. Botswana a décriminalisé l'homosexualité. Mais le Sénégal a durci sa loi sur la criminalisation
de l'homosexualité. C'est épouvantable au Sénégal, oui.
En Hongrie, là, il y a un nouveau gouvernement, mais en 2025, ils ont interdit toutes les fiertés sur leur territoire. Aux États-Unis, c'est plus de 1200 projets de loi anti-LGBT, puis disons-le, anti-trans. Là.
En fait, c'est rendu un pays qu'on ne devrait pas visiter en tant que personne de la diversité sexuelle et de genre.
Ben, c'est-à-dire, si on y va...
on rentre dans le placard.
Ouais. Puis, à vous, t'sais, c'est plate, là, mais à vos risques et périls. Là.
Tout à fait.
Il y a beaucoup de personnes trans qui veulent venir au Canada, justement, comme ça, parce que se déplacer d'un État à un autre aux États-Unis n'est pas nécessairement gage de sécurité non plus.
Tout à fait.
Donc, au niveau législatif, on voit que ça bouge. Et au niveau, ben, les réseaux sociaux, donc, en fait, en ce moment, on voit que la parole est décomplexée. Depuis la pandémie, on dirait que les propos homophobes et tout ça, les gens se gardaient... Jane, là,
ben, peut-on parler justement d'un exemple qui est très récent? On va parler de Cédric Vérot, c'est l'adjoint du maire de Québec, ouais. Bruno Marchand. Il s'en est pris, là, on va se dire, une bonne expression française, plein la tronche, pour ne pas descendre plus bas, de commentaires homophobes. Ça dit quoi, ça, sur notre monde? Et ça, c'est sur les réseaux sociaux, la suite d'une photo de lui avec le maire.
Bien, première des choses de tout cœur avec Cédric Vérot, c'est, là, c'est vraiment pas agréable. Là,
en fait, juste pour dire aux gens, je l'ai contacté pour qu'il participe à l'émission, puis il a préféré pas le faire. Il s'est dit, j'ai déjà assez fait là-dessus. Ouais.
Bien, heureusement, il y a eu des gens qui ont pris parole, notamment au niveau des politiciens. Là. C'est ça, d'ailleurs, je le souligne, là, c'est exactement ça qu'il faut faire. Dénoncer quand il y a des choses comme ça qui se produisent. Je pense qu'il y a une banalisation. Sur les réseaux sociaux, là, à la Fondation, on avait fait une campagne en 2016, si je ne me trompe pas, qui disait que c'est pas parce que c'est en ligne que c'est plus tolérable. On oublie souvent quand on est en ligne que c'est des vraies personnes qui sont de l'autre côté. T'sais. Quand on est sur les réseaux sociaux, on pense qu'il y a une distance qui se crée puis que c'est moins grave. Non, on blesse réellement des gens. Là. Fait que les gens disent le fond de leur pensée sans réfléchir. C'est sûr que ça rappelle qu'il y a un travail de sensibilisation à faire, puis d'explication, puis tu sais. Fait que ça, c'est fondamental pour nous. Mais on voit qu'en ce moment, la parole est quand même décomplexée. Puis les réseaux sociaux, là, faut pas oublier. Moi, je pense qu'on est dû collectivement, puis tant mieux si la Journée internationale devient un élément pour en prendre conscience, mais je pense qu'on est dû pour avoir une réflexion collective sur l'utilisation des réseaux sociaux. Ça reste
ça fait
des
années.
Ben oui.
Qu'Alain, comment est-ce qu'il s'appelle, l'ancien chef des nouvelles, mon Dieu, le nom m'échappe, mais qui a écrit sur ça et qui disait, est-ce qu'on va laisser notre démocratie dans les mains de quelques oligarques technologiques ou
des réseaux sociaux? Exactement là où j'allais. En ce moment, c'est des compagnies privées qui, en fait, monopolisent la conversation démocratique. T'sais. Puis... les réseaux sociaux sont pas là pour la démocratie, là. Ils sont là pour vendre. Puis les réseaux sociaux utilisent certaines émotions, comme la frustration, pour alimenter les algorithmes,
ça
puis générer du contenu, puis ultimement payer. Fait que, à un moment donné, je pense que les réseaux sociaux, c'est un outil extraordinaire, mais dans la forme actuelle, on voit que très rapidement, la majorité s'en prend aux minorités qui sont plus... pour elles, c'est plus difficile de pouvoir pas se justifier, mais je veux dire, rectifier les faits. Puis, tu sais, Il y a un rapport aux États-Unis, le Global Philanthropic Project, qui a sorti des données sur le financement anti-genre, anti-LGBT dans le monde. Puis seulement les 4 plus grandes fondations dans le monde financent l'anti-LGBT, là. Et ça totalise plus que les 8 000 subventions gouvernementales à travers le monde pour les projets LGBT.
Les 4 fondations, c'est quoi? C'est
j'ai pas leur nom ici, mais sont dans le rapport 2022 de Global Philanthropic Project. Fait qu'il y a de l'argent qui est mis pour restreindre les droits des personnes LGBT. Puis,
mais on sait qu'en Afrique, ce sont des églises et des mouvements états-uniens qui financent toute cette propagande anti-LGBT. C'est démontré, c'est des églises états-uniennes, c'est de l'argent qui vient des États-Unis. Alors, ce pays est vraiment à pointer du doigt, là.
Bien, c'est-à-dire, les religions sont souvent la justification derrière pour restreindre les droits des personnes LGBT, ça, c'est sûr.
Alors, revenons au Québec. Est-ce que le Québec est toujours encore un modèle?
Ah, ben je pense que oui. C'est-à-dire, on a nos défis. En ce moment, on voit qu'il y a une tendance qui est en mouvement. Par exemple, la montée des crimes haineux visant les personnes LGBTQ+, est en hausse depuis la pandémie. Bon, tu fais encourageant entre 2024 et 2025, une petite baisse, là. Mais sur les 5 dernières années, grosso modo, il y a quand même une grande augmentation des crimes haineux. On voit aussi les propos haineux, mais tu sais, il y a des événements qui apparaissent comme le guet-apens à Sherbrooke, là. Mm-hmm. L'utilisation de Grindr pour attirer un homosexuel, puis...
Ah, ça se fait beaucoup en Europe, ils ont même passé une loi en France là-dessus. Là.
Ben c'est ça. Fait que, on dirait que le Québec est tout le temps un petit peu, je dirais, 5 à 10 ans, j'allais dire, après ce qui se passe ailleurs. Là. Il y a comme un effet à retardement. Puis on voit que ce qui se passe tranquillement ici, ailleurs, en fait, est en train de se produire ici. Puis le rapport du Gris du Gris Montréal dans les écoles où on voit la montée de l'intolérance, où on voit que c'est plus difficile d'accepter un ami qui sera homosexuel.
On peut même amener aussi l'étude de François Dupuy-Déry pour la FAE, qui c'est quand même assez inquiétant de voir ça.
Oui, vraiment. Fait qu'au Québec, on n'est pas à l'abri. Je pense que ce qu'il faut retenir ici, puis j'en appelle vraiment à nos politiciens, ce qu'on pensait être des acquis, c'est pas nécessairement des acquis, là. Fait qu'il faut qu'il y ait une volonté politique, puis il faut qu'à un moment donné, les politiciens rappellent qu'il faut calmer le ton, là, parce qu'on le voit sur les réseaux, là, un rien part comme un feu de paille.
Bien justement, il y a une campagne électorale qui s'en vient au Québec. Vous allez faire des pressions sur les différents partis politiques?
Bien, c'est sûr qu'on va chercher à sensibiliser le plus possible les candidats et candidates, mm-hmm. puis les élus pour la prochaine campagne électorale, c'est certain.
Laurent, ça fait 10 ans que tu es à...
12 ans.
12 ans à la Fondation Émergence. Bon, je ne veux pas te demander si tu es là pour longtemps, ça serait une autre question, mais les choses, comment tu vois l'évolution des choses depuis que tu es là?
Très bonne question. Je dirais que quand j'ai commencé, on parlait beaucoup de lutter contre l'ignorance, sensibiliser, tout ça, ce qui est encore vrai. Mais la parole est plus décomplexée aujourd'hui. Ça, je vois vraiment l'évolution. Je pense que quand on veut changer les choses, il y a tout le temps deux grands mouvements. Tu as le législatif, puis tu as les mentalités. Des fois, les mentalités vont plus vite, puis ensuite, le droit s'ajuste. T'sais. Des fois, c'est l'inverse. On change le droit, puis on fait de la sensibilisation après. Je pense qu'actuellement, les dernières années, les communautés LGBT, puis mes collègues des groupes communautaires ont fait un travail exceptionnel là-dessus, on a fait avancer les droits. On reconnaît aujourd'hui le genre neutre. Là. C'est quand même une belle avancée. Mais est-ce qu'on l'a suffisamment expliqué à la population? Puis je pense que c'est peut-être un décalage actuellement où on voit une réaction qui se produit. Donc, il faut renforcer tout le travail de sensibilisation puis d'éducation.
Laurent Beau, qu'est-ce qu'on se souhaite pour cette année, pour la journée?
Empathie, bienveillance, de la gratitude pour les alliés, mais aussi des alliés qui ont le goût d'embarquer l'effet allié. Puis, à très court terme, je nous souhaite une grande marche le 17 mai.
Oui, puis avoir du plaisir.
Oui, absolument. Donc, les gens sont invités à venir marcher le 17 mai, dimanche, à 1 h place des festivals à Montréal.
Puis j'imagine qu'on démarche un peu partout au Québec et au Canada. On peut juste s'attendre à ça.
Absolument.
Merci beaucoup, Laurent Beau.
Merci beaucoup.
Laurent Beau, directeur général de la Fondation Émergence.